Je voudrais vous dire ce soir, très simplement, que Dieu vous aime. Qu'il vous a tant aimé. Et que je lui demande de nous faire éprouver individuellement à quel point chacun de nous est aimé du Père, à quel point chacun de nous est aimé du Fils, à quel point chacun de nous est aimé et pourrait être choyé par le Saint-Esprit. Un seul Dieu béni éternellement. Je ne sais si je vais vous décevoir, mais ce soir encore, nous étudierons un psaume. Peut-être n'aimez-vous pas beaucoup les psaumes. Il y en a qui sont si longs, en particulier le 119. Ah, vous le connaissez quand même. C'est merveilleux. Mais j'insiste sur ce fait que la personne qui n'a pas la connaissance des psaumes ne connaît guère le Seigneur Jésus, même si elle a lu les 4 évangiles et si elle nous dit qu'elle aime les évangiles. Certes, les évangiles nous présentent la personne de Jésus, nous racontent sa naissance, ses prédications, ses œuvres, sa mort, sa résurrection, mais les pensées de Jésus, vous ne les trouvez guère dans les évangiles, sinon peut-être dans ses prières, et en particulier dans la prière sacerdotale, où nous voyons dans la nuit où il fut livré le Seigneur Jésus sous le ciel de Palestine et penché son cœur dans le sein du Père. C'est un des chapitres qui m'émeut toujours. Jésus priant, le voir prier, le voir s'adresser à son Père et l'entendre surtout, lui parler, et lui parler de nous, lui parler de ceux qui croiront en lui par la parole des apôtres. C'était donc de vous qu'il s'agissait. Et alors on peut se représenter comment maintenant, dans la gloire, il continue à parler de nous à son Père, puisqu'il est notre divin intercesseur et notre souverain sacrificateur, comme nous allons l'étudier au cours des ateliers à partir de demain matin, en nous penchant sur cette merveilleuse épître aux Hébreux qui nous font connaître Jésus actuellement, Jésus à la droite de Dieu. Eh bien, nous allons lire ce psaume. Et j'ajouterai deux autres textes du Nouveau Testament qui donnent une grande lumière sur ce psaume et qui vous permettra de contrôler si ce sont mes pensées que j'apporte, mon interprétation de ce psaume, ou si c'est vraiment l'interprétation apostolique aussi bien de Pierre que de Paul. C'est le psaume combien? Non, il y a un chiffre de trois. Deux. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre le Seigneur et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement, baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui, puissions-nous tous être de ceux qui se confient en lui. Et je vais maintenant dans le livre des Actes des Apôtres. Jésus est remonté dans la gloire. La Pentecôte s'est accomplie, la promesse du Père s'est réalisée, le Saint-Esprit a baptisé les 120 qui sont devenus un seul corps. Historiquement, le baptême du Saint-Esprit que Jean annonçait et que Jésus a promis avait eu lieu. C'est un fait historique. Et alors, depuis ce moment, les apôtres, et en particulier Pierre, a prêché l'Évangile, comme vous le savez, dans les premiers chapitres des Actes. Et même avec Jean, ces deux apôtres ont été les auteurs d'un miracle. Ils ont fait marcher un impotent qui était très connu à Jérusalem et qui se tenait mendiant à la belle porte. Étendant la main à Pierre et Jean qui montaient au temple, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux, Pierre lui répond, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne. » Et il lui commande de se lever et ce boiteux saute sur ses pieds et entre avec les deux apôtres dans le temple en louant le Seigneur. Ils sont aussitôt arrêtés et ils doivent passer au tribunal où Jésus lui-même a été condamné devant le Sanhédrin, car tout le peuple est en admiration devant ce que les apôtres ont fait et ils l'ont fait en quel nom? Au nom de Jésus. On avait voulu se débarrasser de Jésus. Et les œuvres de Jésus, le nom de Jésus est plus que jamais proclamé par ces hommes si simples, ces Galiléens sans culture. Alors, finalement, on doit les relâcher. Verset 23 du chapitre 4. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu tous ensemble et dirent, voilà une prière apostolique, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Prenez maintenant la prédication de Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul, et se trouvant à Antioche de Pisidie, au chapitre 13 de ce livre des Actes des Apôtres. Il est avec Barnabas. Verset 14, au milieu du verset 14. Étant entré dans la synagogue le jour du sabbat, c'est donc à Antioche de Pisidie, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire, donc à Paul et ses compagnons, « Hommes frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. » C'était une coutume que l'on avait dans les synagogues, où l'on se rassemblait chaque sabbat pour y faire la lecture de la Torah, des Écritures. Paul se leva et, ayant fait signe de la main, il dit, « Homme israélite, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Par qui ce peuple fut-il en honneur? Par Joseph, oui. Et il l'en fit sortir par son bras puissant. Par qui? Moïse. Hein? Il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Par quoi? La main. Et ayant détruit sept nations au pays de Canaan, je ne vous demanderai pas de les énumérer, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel, qui fut donc le dernier des juges. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Vous voyez là la manière dont Paul prêchait dans un milieu entièrement juif. C'est extraordinaire et c'est très beau. Nous avons là à prendre des leçons, comment entrer en contact quand on nous demande de parler. Il y a une manière de parler. Verset 24. Avant sa venue, la venue de Jésus, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon qu'il est écrit dans le psaume, deuxième, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, qu'il l'ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, et c'est de nouveau un psaume qui est cité, le psaume 16, « Tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. » Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Je m'arrête là dans nos lectures. Ça voulait dire qu'il faut des fois entendre deux fois la même prédication pour qu'elle pénètre et que nous la comprenions. Seigneur, nous venons de lire ta parole et nous te demandons maintenant la grâce de discerner ce que tu as de personnel à nous dire. Saisis-nous, captive notre intérêt et toutes nos pensées, rends-les soumises à l'obéissance du Christ. Renouvelle notre intelligence, donne-nous la force pour parler et donne-nous l'écoute nécessaire pour recevoir et que ta bénédiction sans mesure nous soit accordée selon ton cœur. En Jésus-Christ. Amen. Nous continuons donc ce soir notre thème annoncé à l'écoute du Fils de l'homme. Jésus, disions-nous hier soir, aimait à s'appeler le Fils de l'homme, expression dont se servit le prophète Daniel pour désigner celui auquel le Père éternel, qui est appelé l'Ancien des jours, remit la domination de l'univers entier. Et c'est pour s'être identifié à ce personnage prophétique que Jésus de Nazareth fut condamné par les Juifs qui l'accusaient de se proclamer Dieu en s'identifiant à ce Fils de l'homme que Daniel voyait venir sur les nuées du ciel. Par l'étude du psaume 8, nous avons découvert hier que le vrai Fils de l'homme n'était pas un simple descendant d'Adam, le premier homme, mais un second homme, le dernier Adam, comme l'appelle l'apôtre Paul, l'homme venu du ciel et non pas tiré de la poussière, mais l'homme venu du ciel et qui seul a réalisé dans sa vie terrestre le plan éternel de Dieu pour l'homme, sa créature, qui devait être le roi de toutes les œuvres de la création. Et j'espère que vous retiendrez cela, que Dieu n'avait pas créé l'homme pour la mort et les humiliations du sépulcre, qu'il n'avait pas créé pour la peur et pour la souffrance, mais qu'il l'avait créé pour régner et dominer, non seulement sur la matière, mais sur tous les êtres, qu'ils soient dans les cieux ou qu'ils soient dans les mers ou sur la terre. C'est par une désobéissance du premier homme que nous nous trouvons dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas voulu nous laisser dans cet état et il a mis en branle, si j'ose dire ainsi, le plan de la rédemption de sa créature. Au cas où cet être qu'il voulait créer libre faisait un mauvais choix, Dieu avait prévu un moyen de l'amener quand même à sa destination finale, qui est la gloire de Dieu, mais par un chemin évidemment beaucoup plus long, beaucoup plus pénible. Le chemin que l'homme a choisi lui-même, celui de la connaissance du bien et du mal, où l'homme dans ce chemin réalisera qu'il a bien une connaissance du bien, mais qu'il est incapable de l'accomplir, et que ce mal, même s'il le hait, c'est cela qu'il pratique. de sorte que l'homme arrivera à un moment où il s'écriera « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Et éprouvant bien que même la loi de Dieu ne lui donne pas la force de l'accomplir, la loi lui présente les pensées de Dieu, il soupirera après quelqu'un qui pourra le délivrer. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Mais s'il n'est pas venu plus tôt, il fallait que l'homme fasse vraiment l'expérience qu'il était perdu et que sans l'intervention de Dieu, il ne pouvait pas parvenir à sa véritable destination. Donc, c'est par amour que le Fils éternel de Dieu revêtit notre humanité et devint obéissant, comme le dit saint Paul aux Philippiens, jusqu'à la mort et à la mort de la croix, afin de racheter l'humanité déchue. Lui qui était cet agneau préconnu dès avant la fondation du monde pour être manifesté au temps propre. Et c'est par le sang de cet agneau que nous allions être rachetés, non pas par des choses corruptibles, dit l'apôtre Pierre, de l'argent ou par de l'or. Vous ne pouvez pas faire votre salut par de l'argent ni par de l'or, mais vous ne pouvez être sauvés que par le prix qu'a payé Jésus, sa propre vie. Son sang répandu. Le sang, c'est la vie. Il a payé notre salut au prix de sa vie. Quand on dit que le salut est gratuit, il faudrait encore s'entendre. Il est gratuit pour nous, mais le prix de la grâce, c'est un prix infini. Souvenez-vous toujours de cela. Si vous êtes sauvés, c'est parce que quelqu'un est mort pour vous. Quand vous avez compris cela, votre vie est transformée, votre vie change. Si vous, vous êtes sauvé, si vous, vous pouvez vivre, c'est parce que quelqu'un a pris votre place et est mort pour vous. Alors, on ne peut pas oublier cela. Et l'on vit pour celui qui, pour nous, est mort et maintenant ressuscité. Parce que c'est là la merveilleuse nouvelle. Il n'est pas seulement mort pour nous, mais il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il est vivant et il intercède pour nous. Et ses prières à lui pour nous, elles sont toujours exaucées. J'aime bien ça, j'ai entendu une petite voix. Et c'est parce que habituellement quand je parle aux enfants, ils finissent toujours mes phrases. Et il y en a un qui a dit à sa maman, « Tu sais pourquoi je m'endors pas ?» Parce que M. Racine, il finit pas ses phrases. Et c'est nous qui devons les finir. Alors, on continue d'écouter. C'est un petit gars de l'Ontario qui a dit cela. Eh bien oui, sa mère me l'a rapporté. Les enfants, ils suivent. Et puis, ils ont l'esprit aussi. De sorte que, si c'est le même esprit, ils savent la fin de la phrase. Alors que Dieu nous donne aussi d'être comme ces enfants qui savent si bien nous dire, avec une simplicité extraordinaire, comment eux, ils comprennent les choses. Je le dis, je vous l'ai peut-être déjà dit une autre année, mais quand j'avais demandé à ces enfants, on m'avait demandé de parler du Saint-Esprit, de la Trinité, et puis je me disais, ça sera très compliqué pour eux, surtout qu'il y avait des enfants de 6 ans, 7 ans, et puis alors je leur dis bien, moi et le Père nous sommes, puis je montre bien mes deux doigts, hein, moi et le Père nous sommes, et je leur avais demandé s'ils étaient forts en mathématiques, et alors il y en a tout de suite qui avaient levé la main, oui. Je les avais avertis que les mathématiques du ciel, c'était un peu différent que les mathématiques modernes ou les mathématiques toutes simples. Hein. Et alors, quand même, il y en a un, peut-être un peu plus savant que les autres, qui a dit un, mais il n'avait pas l'air très très sûr. Hein. Moi et le Père. Alors moi, j'ai fait l'étonné. J'ai dit, mais comment? Moi et le Père, nous sommes... Puis alors... puisqu'un avait osé dire un, et ils ont tous dit un. J'ai dit, mais moi je ne vous comprends pas. Comment est-ce que vous pouvez dire, moi et le Père, nous sommes un, et une petite fille de 6 ou 7 ans dit, même sur racine, parce que quand on sait, on est un. Vous voyez pas que c'est beau ça? Je n'oublierai jamais, parce que quand on sait, on est un. Pas compliqué. Pour elle, pas de problème. Nos problèmes. C'est merveilleux, les enfants. Eh bien, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux petits-enfants. Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur nous encourage et nous donne vraiment de mieux comprendre les Écritures. C'est par amour que le Fils de l'homme est venu dans ce monde. Alors, le premier droit du Fils de l'homme, nous le disions en terminant hier soir, il a droit à l'amour de ses créatures, parce qu'il nous a aimés. Dieu nous a tant aimés, il nous a donné son Fils. Mais son Fils, lui, il a aimé chacun de nous, il a aimé l'Église, et il a donné sa vie pour son Église, qui est son corps, l'ensemble de tous les rachetés. Alors, si lui nous a tant aimés, les droits du Fils de l'homme, son premier droit, c'est d'être aimé par ses créatures. Il nous a aimés le premier, et notre amour répond à son amour. Son amour appelle notre amour. Et nous avons vu en lui comment il aimait son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Ce n'était pas simplement le premier commandement pour lui, mais quand il le citait, on voyait en lui ce que c'était qu'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Et quand il citait le second commandement, qui était la manifestation visible et pratique du premier, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », eh bien, on voyait ce que c'était, en regardant Jésus, l'amour du prochain. Comment il se penchait sur les uns et les autres, proche de toutes les âmes, mais séparé de toute souillure. Il était la manifestation de ce qu'il disait. Il y avait sa doctrine et sa vie, mais sa doctrine était sa vie, puis sa vie était sa doctrine. Et c'est ça qu'il nous faut. Non pas des gens qui ont une doctrine et qui mènent une autre vie, mais où il y a correspondance, où il y a unité entre ce que l'on prêche et ce que l'on vit. C'est cela le témoignage, c'est cela le secret de l'évangélisation et la fin de tous ces problèmes. Alors ce soir, c'est par le psaume 2 que nous allons vérifier si Jésus, Fils de l'homme, correspond vraiment au Fils unique de Dieu, à celui que 1000 ans avant la naissance de Jésus-Christ, Dieu proclamait son Fils, son engendré, celui qui recevrait sur simple demande toutes les nations en héritage. Vous savez que David vivait 1000 ans avant la naissance de Jésus, et nous avons lu que ce David, quand il a écrit ce psaume, il l'a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que David a écrit ce psaume 2. Et j'espère que vous commencerez à aimer ce psaume. Ce psaume 2 est formé de 4 strophes. Vous voyez qu'il a 12 versets, 4 strophes de 3 versets chacune. Dans la première strophe, le psalmiste nous fait contempler un premier tableau, un tableau alors terrestre. Les hommes qui s'agitent sur la terre, il y a tumulte parmi les nations. Vaine pensée parmi les peuples, on voit une coalition de rois, de diverses nations, de gouvernements qui se mettent contre l'Éternel et contre son oint, c'est-à-dire contre le Messie, contre celui qui est l'objet de toutes les promesses de Dieu à Israël. Il y a un refus de se soumettre à ce Seigneur. C'est ce que vous trouvez dans ce premier tableau. Vous relirez vous-même cette première strophe, versets 1 à 3. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Nous en avons assez de Dieu, nous en avons assez de Jésus. Et dans bien des pays, à l'heure actuelle, eh bien, on a réalisé déjà cela, et ceux qui n'ont pas voulu se révolter, eh bien, c'est eux qui sont dans les chaînes. On a voulu briser les liens, briser les chaînes qui nous lient à Dieu et à notre Seigneur, mais avec tout cela, eh bien, on a jeté en prison ceux qui voulaient lui rester fidèles. Ce premier tableau est d'une actualité saisissante. C'est les dernières nouvelles, parce que il y a un tumulte aujourd'hui parmi les nations, il y a de vaines pensées parmi les peuples, il suffit d'écouter les rapports de l'ONU, les Nations dites unies, comme nous le soulignons hier déjà, pour nous rendre compte que tous ces hommes qui discutent de l'avenir du monde, eh bien, ils ne consultent pas Dieu, ils font des projets, ils prennent des décisions, mais où Dieu n'a aucune place. Et la plupart de ces hommes sont pourtant baptisés, à part les musulmans et les bouddhistes ou les hindouistes, mais une grande majorité encore sont des gens baptisés, mais on n'invoque pas le nom du Seigneur pour prendre une décision. Dans la deuxième strophe, qui va du verset 4 au verset 6, nous avons un autre tableau, mais ce n'est plus un tableau terrestre, c'est le tableau du ciel. Le ciel s'ouvre, et là, nous pouvons contempler l'Éternel assis sur son trône et qui regarde ce qui se passe sur la terre. Il considère avec calme tout ce tumulte, ces émeutes insensées. Puis, soudainement, il menace les coupables. Nous arrivons ensuite à ce troisième tableau, ce troisième strophe, versets 7 à 9, qui nous présente alors, tout à coup, le Seigneur lui-même, racontant le décret de Dieu, ce que Dieu lui a dit. C'est loin de l'Éternel qui rappelle sa divine installation. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai aujourd'hui engendré, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme un vase d'un potier. Et enfin, alors, vous avez la dernière strophe, versets 10 à 12, où nous entendons le psalmiste s'adresser lui-même aux rebelles pour les engager à faire leur soumission pendant qu'il en est temps, parce qu'il y a encore grâce. Même pour les nations qui se dressent contre l'Éternel et contre son oint, même pour la Russie, même pour les gens de Moscou qui sont au gouvernement, il y a encore une possibilité de conversion pour eux. Est-ce que vous priez pour les dirigeants de Moscou? Ou bien est-ce que vous attendez que les Américains leur lancent avant que les Russes et il fait la même chose, une bombe pour les neutraliser. C'est un beau mot, hein, neutraliser les gens. Est-ce que nous prions pour la conversion de ces gens? C'est encore l'heure, hein? Parce que cette dernière strophe, hein, nous dit que nous devons exhorter même les dirigeants des nations à se réveiller et à revenir au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard, à baiser de fils, oui, à lui donner ce baiser de la soumission comme on le fait en Orient quand on rencontre un seigneur de l'Orient, un cheikh. J'étais dans une de ses tentes une fois dans le désert de Beersheba, eh bien on baise la main de ce seigneur, de cet homme élevé en dignité et qui nous accueille. Alors vous comprenez ce langage de l'écriture, baiser le fils avant qu'il ne s'irrite. C'est maintenant le temps agréable, c'est maintenant le jour du salut. Donc, cette dernière strophe, le psalmiste engage ses hommes à faire soumission au Seigneur. Et je dirais que ce psaume, plus je le relis, plus je trouve que c'est un véritable chef-d'œuvre de concision et d'élévation. Alors, nous allons le reprendre avec plus d'attention. Vous avez vos Bibles? Alors, nous repartons du verset 1. Parce que c'est comme ça qu'on médite. J'essaye de vous montrer comment on doit lire la parole. Hein. On lit une fois, on essaye de trouver les grandes lignes, et puis on marque certains points, et puis après, on relit. Et on s'arrête sur les mots. Ne vous inquiétez pas, je ne dépasserai pas l'heure, je ne m'arrêterai pas sur chaque mot. Mais seulement vous donner quelques exemples. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Alors, vous isolez le mot « pourquoi ». Puis vous vous demandez, est-ce qu'il y a d'autres « pourquoi » dans l'Écriture? Ah, les « pourquoi » de Dieu, quelle étude! Les « pourquoi » de Dieu, ils sont redoutables. Et vous pouvez déjà en trouver dans la Genèse, dans les premiers chapitres. Pourquoi? Et je pense spécialement à Caïn. Dieu parle à Caïn parce qu'il a un visage d'une longueur effroyable. Est-ce qu'il y en a ici qui ont ce visage-là? Pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi as-tu l'air irrité? Pourquoi? C'est Dieu qui dit cela. Moi, je voudrais bien vous voir, là. Qu'est-ce qu'il y a sur ton visage? Caïn? Pourtant, c'est un homme qui a fait des offrandes au Seigneur. Mais voilà, il a l'impression réelle que Dieu n'a pas agréé ses offrandes, tandis que les offrandes de cette Abel, eh bien, la fumée est montée tout droit vers le ciel, tandis que la sienne, elle tombait vers la terre. C'était le mauvais temps qui s'annonçait. Alors, pour Caïn, il était furieux. Et Dieu lui dit, mais pourquoi? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé? Parce que c'est pas l'offrande qui compte, hein. C'est le cœur qui fait l'offrande. Et c'est ce que nous voudrions qu'on comprenne dans toutes les religions. Des offrandes, on en fait, des œuvres, on en fait, mais c'est pas les œuvres qui comptent, c'est l'intention. Alors, frères et sœurs, vous voyez comme toute la parole est inspirée de Dieu et peut nous enseigner. Alors, vous prenez un simple mot, pourquoi, puis vous pensez à d'autres pourquoi. Donc, je ne m'en vais pas à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse avec tous les pourquoi, parce qu'on sera encore là demain matin. Alors, maintenant, ces rois de la terre. Alors, ce verset-là, pourquoi les rois de la terre se soulève-t-il? Alors, on a déjà une explication sans sortir de la Bible et sans se creuser trop les méninges. Parce que on se souvient que l'apôtre Pierre, avec l'apôtre Jean, quand ils ont raconté comment on les a traités au Sanhédrin, comment ils ont eu une occasion quand même de leur souligner qu'il n'y avait de salut en aucun autre qu'en Jésus, qu'il n'y avait pas d'autre nom sous le ciel que le nom de Jésus par lequel il fallait être sauvé. Eh bien, quand ils racontent ça aux autres disciples qui sont là à Jérusalem, qu'est-ce que cela donne? Une réunion de lamentation et de crainte parce que ils sont menacés? Mais non, c'est une réunion de louanges. Et là, ils prient tous ensemble. Il n'y en a pas que quelques-uns. Puis il n'est pas dit que les femmes n'ont rien dit. Ils étaient tous ensemble. Il n'y a plus ni homme ni femme quand on est devant le Seigneur et dans l'Esprit du Seigneur. Alors tous ensemble, c'est une explosion. Ils ont tous prié là. Et puis ils ont le même esprit. Alors ils citent ce psaume. Je ne vais pas relire le texte des actes, mais vous pouvez vous-même retrouver ce passage. Et il cite le psaume 2 comme ayant déjà eu une réalisation partielle quand, au jour où Jésus a été rejeté, il y a eu tumulte à Jérusalem et coalition entre un Hérode, faux roi des Juifs, et un Pilate qui détestait Hérode, procurateur de l'Empire romain, et ils se font amis ce jour-là pour crucifier le Seigneur Jésus. Les Juifs qui haïssaient les païens, qui les traitaient de pourceaux et qui les traitaient de chiens, ils n'étaient pas à tendre, les Juifs, pour les païens. Mais ce jour-là, eh bien, ils se sont ligués ensemble contre l'Éternel et contre son oint. On ne voulait pas de Jésus. C'était un gêneur et on lui a préféré qui? Barabbas, un brigand. Hein. Et puis le monde est toujours conduit par des brigands. Il ne faut pas s'étonner. On a préféré un brigand, Barabbas ou Jésus, et vous, qu'est-ce que vous avez préféré? Qui suivez-vous, Barabbas? Ah, avec Barabbas, c'est la belle vie. Hein? On peut boire, on se drogue, on peut faire des hold-up, jusqu'à ce qu'on soit pris. Avec Barabbas, on peut tout faire, il n'y a pas de loi. On peut avoir toutes les femmes que l'on veut, même celles de son prochain. On n'a pas besoin de se soumettre aux lois et à l'état civil. Peu importe. Brisons leurs liens, rompons leurs cordes. Oui. Mais un jour, la mort. Un jour, c'est le jugement. Est-ce que vous avez Barabbas ou est-ce que vous avez Jésus? Donc, c'est à la personne du Christ, c'est aux événements du Vendredi Saint que l'apôtre Pierre se réfère en citant le psaume 2. Mais notre psaume s'applique également à la longue liste des persécuteurs du peuple de Dieu sous les deux alliances et annonce spécialement la révolte finale, cette révolte eschatologique, comme on l'appelle, c'est-à-dire de la fin des temps, cette révolte contre Dieu et contre son Fils. Cette apostasie qui vient, et nous vivons dans le début de cette apostasie, où un homme va bientôt surgir de ces nations et se faire adorer comme Dieu. On ne voudra plus entendre parler de Dieu et des foules de baptisés. N'ayant pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés, ils croiront le mensonge. Et parce que cet homme étant revêtu de la puissance de Satan, fera beaucoup de miracles, comme le monde maintenant, et même le monde religieux, réclame des miracles, et ne peut pas croire s'il ne voit pas des miracles et des prodiges, eh bien, quand l'Antichrist ou la bête feront ces miracles, on les suivra, et on rejettera ouvertement ce qui restait du christianisme. C'est cette révolte vers laquelle nous allons. Et que même les incrédules annoncent, parce qu'ils disent il doit se passer quelque chose. D'ici 30 ans, il doit y avoir un événement extraordinaire. Et ils ont peur. Alors on prend toute espèce de mesure. Cette révolte finale qu'annonce ce psaume, et qui a eu déjà un accomplissement partiel au temps de Jésus, donc c'est tous les prophètes de l'Ancien Testament qui l'annoncent, c'est pas le monde qui va se convertir, le monde il va vers la catastrophe, vers la ruine, vers le jugement. Jésus l'a dit, les épîtres l'annoncent jusqu'à l'Apocalypse. Mais cette hostilité, Jésus l'anéantira par son apparition soudaine, le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, mettra fin à la puissance de tous ces royaumes, de toutes ces bêtes, et établira enfin ce règne de justice et de paix qui nous sont décrits dans les Écritures. C'est lui, loin du Seigneur. C'est lui, le Messie. Et j'espère que vous savez ce que c'est que cette onction dont on parle ici, car il est parlé de loin du Seigneur. L'onction d'huile représentait la communication des forces divines dont les rois et les prophètes d'Israël devaient être revêtus, ainsi que le souverain sacrificateur, pour remplir leur mandat au nom de l'Éternel. Ils étaient oints d'huile, et cette onction donc représentait la communication des forces divines dont ces hommes avaient besoin. Et quand on impose les mains aussi, eh bien, nous nous identifions à la personne à laquelle nous imposons les mains. Est-ce que nous réclamons justement, c'est cette communication, non pas de notre puissance à nous, mais de la puissance du Seigneur sur la personne pour laquelle on prie. C'est pourquoi il est dit de ne pas imposer les mains avec précipitation à personne, de peur que nous participions à leur péché. De sorte qu'il faut savoir ce que nous faisons quand nous sommes appelés à imposer les mains. Jésus est donc le véritable oint, le Messie, qui possède tous les dons dans leur plénitude. Et alors, passons maintenant au deuxième tableau, versets 4 à 6, nous voyons là l'attitude de l'Éternel. Et si vous vous y arrêtez, je trouve qu'il n'y a rien de plus grand que ces traits si brefs et si rapides où sont dépeints le calme du Seigneur, assis dans les cieux. Est-ce que vous connaissez un autre verset, une autre image qui nous montre Dieu dans le calme au-dessus des flots? C'est au psaume 29. Il est dit que Dieu était assis sur son trône quand? Au déluge. Il y avait le déluge sur la terre, mais Dieu était assis sur son trône. Eh bien, vous-même, mes amis, quand vous passez par un petit déluge, parce que de grands déluges, il n'y en aura plus, hein, mais quand vous avez des circonstances difficiles et que tout semble bouleversé pour vous, souvenez-vous que le Seigneur est calme. Calme. Alors, si mon père est calme, pourquoi est-ce que l'enfant s'inquiéterait? Tu n'as pas à t'inquiéter. Ton père est calme. C'est tellement beau. Il est calme, notre Père des cieux. Au-dessus des nuages, le ciel est resté bleu. Et le soleil dit encore, nous sommes dans la crasse, hein, mais le soleil est toujours là. Attendons qu'un vent passe et tout sera dissipé. Restons dans le calme de notre Dieu. Il est dit que notre espérance en lui, c'est comme une encre de l'âme. Hein, l'encre de notre âme qui pénètre au-dedans du voile. Vous aurez ça dans l'Épître aux Hébreux, ce sera beau, hein. Vous allez être ancré, d'après l'Épître aux Hébreux. Votre âme, eh bien, a une ancre, et c'est cette espérance, et elle sera jetée jusqu'au dedans du sanctuaire. Alors, les bateaux pourront être secoués par les vagues, l'ancre est dans le sanctuaire. Et rien ne pourra vous arriver, sinon du bien. Il nous éprouve, mais pour nous faire du bien à la fin. Oui, c'est au psaume 29 qu'il est dit que l'Éternel était sur son trône au déluge. Alors, en face de cette agitation que nous voyons sur la terre, il est dit que Dieu se rit d'eux. Il y a des gens qui disent que Dieu ne sait pas rire. Ils n'ont jamais lu la Bible. Et Dieu a même de l'humour. Mais attention aux moqueurs, il y en a tellement qui se moquent de Dieu sur la terre. Il est dit qu'aussi le Seigneur se moquera de lui. Vous êtes des moqueurs. Vous dites où est la promesse de sa venue? D'un jour, elle sera accomplie. Attention aux moqueurs. Qui rira bien, rira le dernier. Hein? Que nous puissions être saisis d'une sainte crainte. Fuyez la colère avant qu'elle s'embrasse. C'était la prédication des apôtres. Ils disaient que les convertis de Thessalonique s'étaient tournés vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai, s'étaient détournés des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et attendre des cieux Jésus qui nous délivre de la colère à venir. La colère vient. La colère vient sur ce monde. Et elle est annoncée dans le psaume 2. Sa colère peut s'embraser. Oui, il y a un temps de grâce, mais croyez-le. Si vous n'avez pas Jésus, la colère de Dieu demeure sur vous. Et alors, ce sera l'épouvante. Car, quand soudainement, le Seigneur ébranlera, comme on le voit dans l'Épître aux Hébreux, une seconde fois les cieux et la terre, les gens rendront l'âme de peur. Même quand il y a eu le volcan du Mont Sainte-Hélène, ceux qui étaient là autour, ils ont été terrifiés. Et si vous lisez les journaux, si vous voyez un peu les images de ce qui est résulté de ce volcan, c'est effroyable. Eh bien, si ça se continue, les gens rendront l'âme de peur. Et pourtant, on pourrait être ailleurs quand ces choses arriveront de plus en plus fortement. Alors, prenons garde. Et puis, écoutons le décret de Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui parle. Il y a un décret que les hommes ont oublié et que nous vous avons signalé dans le prospectus de ce camp. Il y a un décret. Et c'est le Seigneur lui-même qui dit, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Et ça, vous le savez aussi, quand Jésus est sorti du baptême, de Jean, du Jourdain, le ciel s'est ouvert et on a entendu la voix du Père dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé tout mon plaisir. Voyez-vous, l'Éternel ne s'attarde pas à parler aux méchants, mais il laisse son fils paraître. Et c'est son oint lui-même qui révèle le décret de Dieu. Il doit régner. Et si vous lisez l'Apocalypse, vous verrez qu'à ce règne de justice qu'il établira avec une verge de fer, il associera ceux qui auront cru. Nous régnerons avec lui. Est-ce que vous êtes de ceux qui acceptez aujourd'hui de souffrir avec lui pour régner avec lui? Oui, c'est le Fils unique. Je t'ai aujourd'hui engendré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce mot engendré. C'est bien que Jésus n'est pas le fils de Joseph. Il est fils de Marie, selon la chair. Mais il a été engendré par le Père lui-même. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas éternel. Le Fils est éternel. Mais ce mot engendré nous montre le moment de quoi? De son incarnation. C'est ça, simplement. Le Fils engendré nous signale le moment de son incarnation. L'aujourd'hui, c'est maintenant. C'est ce qui est dans le temps aujourd'hui. Hein. Mais il était dans l'éternité. Et il est entré dans le temps. Et dans le temps, c'est aujourd'hui. Nous sommes encore dans l'aujourd'hui de Dieu. Après, ce sera l'éternité. Maintenant, c'est l'aujourd'hui de Dieu. Alors, pour l'aujourd'hui, nous avons le Seigneur. Nous avons le Fils de l'homme comme sauveur. Et c'est merveilleux. Mais sachez que lorsque le Seigneur demandera à son Père les nations pour héritage, alors il les aura. On ne voit pas encore le Seigneur régner sur toutes les nations. Mais pour nous, missionnaires, c'est déjà merveilleux de savoir que toutes les nations ont été données au Seigneur. Et j'ai espoir pour les musulmans, j'ai espoir pour les bouddhistes, j'ai espoir pour les hindouistes, j'ai espoir pour tous les païens, parce que toutes ces nations-là ont été données à qui? Au Seigneur. Et tôt ou tard, le jour viendra où elles seront aussi amenées à la foi. Celles qui voudront croire, je ne dis pas les nations tout entières, mais les individus de ces nations. Et savez-vous que depuis l'envahissement de l'Afghanistan par les Russes, on n'a jamais eu autant de conversions parmi les Afghans que dans ces jours, tous ceux qui doivent partir de l'Afghanistan et qui se réfugient au Pakistan, bien, il y en a des multitudes qui se convertissent au Pakistan parce que c'est là qu'on peut le mieux encore annoncer l'Évangile, tandis qu'en Afghanistan, c'était impossible d'annoncer l'Évangile. Mais au Pakistan, on peut annoncer l'Évangile. Alors, il y a des missionnaires, là, qui donnent des nouvelles de ces réfugiés qui viennent de là. Alors, les Russes, ben oui, ils ont envahi cela. C'est pas beau de leur part. Mais ils ne savent pas qu'au-dessus d'eux, il y a quelqu'un qui règne. Et qui sauve les âmes, même par les Russes. C'est quand même extraordinaire. Ce qui ne pouvait pas se faire en Afghanistan, se fait au Pakistan. Les voies de Dieu, ne jugez pas, ne vous mêlez pas de politique, mais devenez des ambassadeurs du Christ. Représentez les pensées de Dieu au milieu des hommes et qui si souvent les ignorent. Alors, nous rejoignons ce que le Seigneur nous a dit ce matin. Allez, faites d'ici toutes les nations, faites des disciples dans toutes les nations. Voilà qui nous encourage, parce que les nations étaient données au Seigneur. Alors, dernière phrase. Puisque maintenant nous savons qui est le Fils de l'homme, que c'est bien le Fils éternel, le Fils du Père, le Fils unique, nous avons un avertissement. Et là, je n'ai pas besoin d'insister dans cette dernière phrase. Servez maintenant, hein, c'est pas demain. Maintenant, roi, il y en a ici des rois? Ah oui, vous devriez être roi. Vous avez cette vocation, roi et sacrificateur, alors ça s'adresse aussi à vous, les sauvés. Maintenant, les sauvés, vous autres, peut-être moi. pas sûr. Mais... Maintenant, roi futur, conduisez-vous avec sagesse. Vous trouvez que les chrétiens se conduisent avec beaucoup de sagesse? Pas tellement. Ce serait le moment qu'on commence, au lieu d'aller apporter la sagesse aux autres, à se dire, Seigneur, donne-moi la sagesse. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas très sages. Conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, comme nous jugeons. Hein. Est-ce qu'il y a des juges ici? Il y en avait deux. Juge de la terre. Recevez instruction. Mais moi aussi. Ne savez-vous pas que les saints jugeront les anges? Alors, pour juger les anges, il faut faire ses preuves quand même. Petite bestiole que nous sommes. Vous jugerez les anges, mais oui, juge de la terre. Vous dites, oh, le juge de la terre, je pense à des noms, là, au Québec, etc. Non, mais c'est aussi vous. Faut pas toujours, c'est aussi eux, n'est-ce pas? Mais on peut toujours prendre quelque chose pour nous. Alors, servez l'Éternel avec crainte. Si on est comme ça, en tremblant dans ses pantalons, servez l'Éternel avec crainte? Non. C'est la crainte de lui déplaire. Cette sainte crainte de lui déplaire, servez l'Éternel avec crainte. Réjouissez-vous avec tremblement. Oui, une joie, mais qui est contrôlée. C'est pas du pop. J'ai pas dit c'est pas du pape. C'est pas du pop. Baiser le Fils. Oh, que j'aime ça. Vous allez étudier les baisers dans la parole, hein? Ou les amoureux. Les baisers dans la parole, c'est très édifiant. Il y a le baiser du pardon que vous avez reçu. Le Fils prodigue l'a reçu. Hein? Le baiser de la réconciliation, le Père, le cours de baiser. Il y a le baiser de la communion qu'il me baise, des baisers de sa bouche, c'est ton amour est meilleur que le vin, etc. Baiser de la bien-aimée du cantique, le baiser de la communion. Après le baiser de la réconciliation, il y a le baiser de la communion. Et pour moi, prendre l'Eucharistie, c'est le baiser de la communion, vraiment. Prendre la Sainte Seine, participer au repas du Seigneur. Et puis, plus loin, vous connaissez encore un autre baiser? Il y a le baiser de la salutation, puis alors, il y a aussi le baiser de la soumission, ici, hein, où on se soumet au Seigneur, et puis le baiser de la trahison. Alors, j'espère bien qu'il n'y aura pas ce baiser là ce soir. Le Seigneur a droit à votre amour, à notre amour. Mais maintenant, un des droits du Fils de l'homme, le Seigneur a droit à quoi? À notre obéissant. Droit du Fils de l'homme. Puisque lui a obéi et est devenu obéissant jusqu'à la mort, un de ses droits, c'est notre amour, mais un autre droit, c'est notre obéissance. Baisez le Fils, soumettez-vous au Fils. Il a droit à mon obéissance. Eh bien, demandons-nous si nous sommes des enfants obéissants. Voulons-nous recueillir dans la prière. Si quelqu'un parmi vous a à cœur de prier, qu'il se sente entièrement libre de le faire, non pas que nous voulions allonger, mais nous voulons vous donner la possibilité de dire à votre Seigneur ce qui est dans votre cœur. Ô Dieu, nous sommes heureux de pouvoir terminer ce premier jour de la semaine en ayant nos pensées imprégnées par ta parole.
Et nous voulons te demander de faire repasser par ton esprit, devant nos yeux et dans nos cœurs, ces quatre tableaux du psaume 2. Tableau du monde, tableau du Père des cieux, dans son calme immuable et souverain, tableau du Fils bien-aimé qui doit régner alors que le monde ignore, mais nous sommes de ceux qui croyons qu'il faut qu'il règne. Alors donne-nous, par notre vie, par notre attitude, d'être des amoureux du Fils. Ô Seigneur, nous avons baisé tant d'idoles. Pourquoi ne te donnerions-nous pas tout notre âme pour mieux connaître le Seigneur? Ce n'est pas que tu ne nous aimes pas, mais c'est que nous, nous évitons ta rencontre. Donne-nous ce soir de ne pas éviter ce tête-à-tête, de ne pas éviter cette rencontre qui pourrait nous libérer et nous transformer. Faire de nous de ces gens du ciel sur la terre qui ont des possibilités divines pour marcher au sein des difficultés de ce monde, étant dans ce monde tout en n'étant pas pur. Identifié au Fils éternel du Père, qui s'est fait homme pour nous comprendre, mais qui reste Dieu pour nous libérer et nous aider. Gloire à toi, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu.